Bonsoir à tous, bienvenue dans l'œil de Sab. Dans l'œil de Sab, nous prenons le temps de la rencontre, le temps de l'écoute, le temps d'une conversation sincère, presque comme entre amis. Ici, nous ne parlons pas de politique au sens partisan, pas de débat, pas de polémique. Nous nous intéressons avant tout à l'humain, au parcours de vie, à ce qui construit une personne. Mon invité est un homme engagé activement dans la vie locale et métropolitaine depuis de nombreuses années, un homme qui continue aujourd'hui encore à s'investir pour Marseille et ses habitants avec constance et conviction. Mais au-delà des fonctions et des titres, c'est surtout un homme d'expérience et de réflexion marqué par un chemin de vie riche qui a façonné son regard sur le monde, sur les autres et sur l'essentiel. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de découvrir l'homme derrière le parcours, ce qui l'anime aujourd'hui, ce qu'il a construit hier et ce qui continue de le guider. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Bruno Gilles. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous, surtout vous m'avez accueilli sur une intro super parce que j'ai reconnu Shadé et j'adore. Et dommage qu'on la voit beaucoup moins.
Et oui, magnifique artiste. Mmh. Avant de plonger dans votre parcours, j'aimerais commencer par quelque chose d'assez simple mais révélateur. Quelle est la question qu'on vous pose le plus souvent et que vous aimez le moins ?
Comment ça va au niveau santé ?
Ah.
Parce que on l'abordera peut-être. C'est vrai que j'ai eu une opération très importante et le 1er décembre 2007, j'ai été greffé du cœur. Donc c'est une très très grosse opération. Peut-être qu'on abordera
absolument ce tout à l'heure dans un instant.
Voilà. Mais beaucoup de gens le savent et c'est vrai que souvent la première question et c'est plutôt sympathique, mais c'est comment ça va au niveau santé ? Alors bon, c'est pas que j'aime pas comme la pose, parce que je trouve que c'est quand même sympathique aussi de demander les nouvelles de ma santé, mais c'est répétitif et voilà. Donc il y a des fois, c'est vrai, je me dis on pourrait passer à autre chose, mais je garde quand même le côté quand même sympathique quand je reçois cette question, parce que c'est des gens aussi qui se préoccupent de moi et donc finalement c'est assez sympa.
Allez, racontez-nous un tout petit peu votre actualité, parce que là, vous exercez plusieurs responsabilités.
Bah écoutez, en ce moment, actualité oblige, je suis en pleine campagne électorale. On prépare, bien sûr, les élections municipales des 15 et 22 mars, qui seront en même temps les élections métropolitaines. Donc, c'est vrai que j'ai un emploi du temps qui est bien rempli.
Mais quelles sont vos fonctions actuelles ?
Alors, mes fonctions actuelles, moi, je reste toujours, bien sûr, conseiller municipal dans l'opposition et conseiller métropolitain, où j'ai en charge la sécurité et les GPO. Alors, les GPO, c'est un terme un peu barbare, mais c'est des groupements partenariats opérationnels. Ça a été créé par le ministère de l'Intérieur et c'est en fait un moment où, sous l'autorité de la préfecture de police, on réunit la police nationale, la police municipale, les CIQ, la RTM, les responsables de collèges, de lycées et bien d'autres personnes. Et c'est vrai que c'est assez riche en dialogue, en questions, et ça permet de garder toujours le contact avec le terrain, de savoir dans chaque arrondissement ce qui se passe. Et ça me prend aussi beaucoup de temps en dehors de la campagne électorale.
Mais vous êtes également maire honoraire du 3e secteur de Marseille.
Oui, je suis maire honoraire puisque j'ai été élu pendant près de 25 ans maire des 4e et 5e arrondissements. Et ce qu'on appelle l'honorariat, c'est quand on dépasse les 20 ans dans une même fonction. Et c'est à l'époque le président du Sénat, Gérard Larcher, qui avait demandé au préfet de me nommer maire honoraire, puisque j'avais dépassé ces 20 ans à la même place et dans la même fonction.
Mais qu'est-ce que ce titre représente justement pour vous ?
C'est un titre honorifique, simplement honorifique. Il n'amène bien évidemment aucun avantage, mais c'est un peu de fierté aussi, parce que je me souviens qu'en 1995, lorsque j'ai été élu la première fois maire des 4e et 5e arrondissements, sur l'ensemble des villes Paris, Lyon, Marseille, où il y a des maires de secteur, j'étais à l'époque à peu près à 34 ans, le plus jeune maire de secteur de France. Et lorsque j'ai quitté la mairie de secteur en 2020, j'étais le doyen, non pas en âge, mais en longévité. C'est-à-dire, j'ai été, sur ces trois villes, Paris, Lyon, Marseille, celui qui est resté le plus longtemps maire de secteur. Donc, c'est un plaisir aussi de dans la vie politique de rester à la même fonction, parce qu'on dit souvent que c'est dur de se faire réélire, mais là, j'ai été élu et réélu quatre fois. Donc, ça prouve qu'il y avait quand même un attachement à ce poste de la part de mes concitoyens, une reconnaissance du travail fourni, non pas de moi-même, mais de l'ensemble des équipes que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 4 mandats. Donc c'est vrai que ce titre de maire honorifique, ça m'a fait plaisir. Après, je ne vais pas cacher non plus par fausse modestie, je suis très heureux aujourd'hui, parce que j'ai toujours ce titre, d'être sénateur maire honoraire des 4e et 5e arrondissements.
Mais vous êtes aussi également responsable du comité municipal Horizon.
Oui.
Mais qu'est-ce qui vous motive dans ce rôle?
Écoutez, je vais vous faire une confidence. J'ai failli arrêter la vie politique après 2020, qui a été une période difficile pour moi, politique, personnelle. J'aimais bien la personnalité d'Édouard Philippe. Beaucoup de gens ignore qu'il a été le premier secrétaire général de l'UMP, quand l'UMP a été construite par l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Je suis allé un peu par hasard au Havre, quand Édouard Philippe a lancé son mouvement Horizon. Et j'ai été vraiment séduit par la clarté de l'état de la France dans les propos d'Édouard Philippe. J'ai été vraiment séduit par son discours. J'ai été séduit par quelqu'un qui, pendant plus de 2 heures, sur scène, sans notes, sans papier, a parlé de l'état de la France, a parlé de l'international. Et je ne le regrette pas. Et ensuite, il m'a donné ses fonctions de responsable du comité Horizon Marseille. Et je m'occupe effectivement d'animer le parti Horizon au sein de la ville de Marseille.
Alors, beaucoup de Marseillais vous associent à une vision humaniste. Comment mettez-vous l'accent sur le lien humain et la proximité avec les gens?
Moi, je suis rentré très jeune en politique, mon Dieu.
On en parlera. Attendez.
Voilà, on en parlera après. Mais le côté humaniste est très lié à ça. Moi, j'ai admiré, comme beaucoup, des grandes personnalités, comme le général de Gaulle. De toute façon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est gaulliste. Et j'ai adoré une personnalité décédée aujourd'hui qui était Philippe Séguin. Et Philippe Séguin était ce qu'on appelait un gaulliste social. Et je me suis toujours reconnu dans ces prises de position de Philippe Séguin sur ce gaullisme social, c'est-à-dire un gaullisme qui s'élevait au-delà du parti politique, qui s'élevait au-delà des clivages de droite, de gauche. Et ce gaullisme social, c'était une manière d'avoir une vision très, très humaniste, très humanitaire, en fait, de la vie politique. Et la vie politique, qu'elle soit locale ou nationale, elle devrait aujourd'hui, de nouveau, s'élever au-delà des clivages politiques, s'élever au-delà des clivages de droite, de gauche, d'extrême droite et d'extrême gauche. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Je le regrette. Et moi, j'ai toujours essayé de suivre cette boussole, je dirais, de l'humanisme, parce qu'on se rend compte que quand on est élu, on ne doit pas travailler que pour les gens qui vous ont élu. On doit travailler pour tout le monde. Et quand aux élections, on a un certain chiffre d'électeurs qui votent pour vous, on se rend compte qu'il y a une immense majorité de gens qui n'ont pas voté pour vous. Entre les gens qui ne sont pas inscrits, les gens qui n'ont pas voté, les gens qui ont moins de 18 ans. Et par exemple, dans un secteur municipal comme le 4-5, il y a quasiment 100 000 habitants, il y a 55 000 électeurs. Et quand vous faites une belle élection, il y en a quoi, 25 000 qui votent pour vous. Ce qui veut dire que vous en avez 65 000 qui n'ont pas voté pour vous, pour les raisons que je disais, c'est-à-dire pas inscrits, pas déplacés, etc. Donc si vous dites « je vais travailler uniquement dans les secteurs où les gens ont voté pour moi majoritairement », vous faites une grosse faute et vous n'êtes pas humaniste. Être humaniste, c'est dire qu'à un moment, j'ai 2 arrondissements, j'ai 8 quartiers, j'ai 94 km de rue, j'ai plus de 90 000 habitants. Et mon job, parce que moi je considère qu'être un élu, c'est un véritable job, il faut le prendre très sérieusement. Et bien mon job, ça a été pendant 25 ans de travailler pour tout le monde. Et je m'honore quand même, là aussi, encore sans fausse modestie, je pense que j'ai plutôt bien fait le boulot, puisque j'ai été élu et réélu 4 fois.
Mais quel projet ou initiative locale vous tienne le plus à cœur?
Les réalisations qui vont servir ensuite à nos concitoyens. Moi, j'ai vu la difficulté parfois pour construire un centre municipal d'animation. J'ai vu la difficulté parfois pour arriver à faire construire un équipement sportif. Beaucoup de gens pensent qu'une fois qu'on est élu, on claque des doigts, on va chercher de l'argent et puis on construit quelque chose. Non, c'est très compliqué. Et le meilleur moment, c'est finalement... alors, il y a le moment un peu de fierté quand on va inaugurer, quand on coupe le ruban, mais le moment de fierté, pour moi, il est après. Il est après quand on revient des mois et des mois après sur cet équipement ou des semaines et qu'on s'aperçoit que la population se l'est appropriée, qu'il y a des associations, que ça fonctionne bien, que du matin au soir, il y a du monde dans ces équipements municipaux. Je pense que c'est ça dont on doit être fier quand on est élu, c'est la possibilité de construire des choses et puis la possibilité d'aider les gens, de recevoir les gens. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point l'élu a un rôle social, pour pas dire, si j'osais le terme, d'assistante sociale.
Justement, quand vous recevez un retour direct d'un habitant, comment cela affecte-t-il votre travail ?
Ben, le retour, soit il est bon, soit il est mauvais.
Oui, quand mais s'il est bon.
Ah ben, s'il est bon, s'il est bon, je dirais, on a fait tout juste. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se dire qu'après une concertation, lorsqu'on réalise quelque chose, que les gens se sont après appropriés, que le retour est bon, ben, on se dit là, on a bien fait les choses. Voilà, là, on a gagné.
Et le contraire, que se passe-t-il ?
Ben, le contraire, il faut avoir le courage, l'honnêteté de se remettre en question et de se dire pourquoi on n'a fait pas bien. Pourquoi on n'a pas fait pas bien, pardon. Et puis, il faut se reposer les questions. Est-ce qu'on a assez concerté ? Est-ce que... Alors après, vous savez, la vie politique est très dure et très injuste. Et vous voyez souvent ceux qui vont bien vous voir, souvent pour des choses qui ne vont pas et pas pour ce qu'il va. Donc, voilà, c'est toute la difficulté. C'est que souvent, les gens satisfaits ne se manifestent pas spécialement et c'est beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits qui viennent vous voir. Mais voilà, sur la durée, je pense qu'on peut trouver de bonnes satisfactions. Et puis, il faut s'occuper aussi des gens au-delà des réalisations. Comme je disais, le maire, en tout cas, moi, j'ai connu encore une époque, j'espère qu'elle continue encore aujourd'hui. Moi, j'ai connu une époque où, quand j'ai été élu en 95...
Justement, je voulais en parler. Je voulais parler de cette époque, justement, pardon. Parce qu'elle était complètement différente.
J'avance un peu.
Une petite dernière question, ouais. Peut-être, avant. Oui. Quel défi majeur voyez-vous aujourd'hui dans les 4e et 5e arrondissements ?
Les défis majeurs, c'est de redonner la parole aux gens, de redonner de la vraie concertation, de redonner de l'affect, de la considération. Moi, ce qui me revient dans les nombreuses visites de quartier que je fais, mais pas que depuis qu'on est en campagne électorale, depuis quasiment 6 ans, c'est que je ne veux pas être spécialement critique envers la municipalité en cours, mais je pense que le lien social, le lien direct n'est plus là. Moi, j'avais une habitude, c'est que je peux regarder quasiment tout le monde les yeux dans les yeux. Moi, j'ai continué à faire pendant 25 ans beaucoup de visites de quartier. Je continue à recevoir beaucoup de gens. J'ai toujours privilégié cette relation humaine et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de dossiers. Quand on abordera le côté politique, on pourra rentrer en détail. Mais il y a beaucoup de réalisations aujourd'hui dans le secteur municipal qui ne sont pas issues de véritables concertations. Et ça me peine beaucoup.
Est-ce que vous avez une anecdote récente où vous avez constaté un impact direct de votre travail sur la vie d'une personne, par exemple ?
J'ai un exemple qui me tient à cœur parce que ses parents sont mes voisins. J'ai connu, sur le boulard Chave, se trouvait le dernier tramway qu'on appelait à l'époque le 68. Et puis, en 2007... On a mis en place le nouveau tramway dans plusieurs secteurs de la ville, mais en particulier sur le boulard Chave. Et il y avait un jeune autiste Asperger qui était, en passion pour le tramway. Et on a beaucoup discuté. C'était le fils de deux commerçants connus sur le boulard Chave, deux opticiens, je ne citerai pas leur nom. On a beaucoup travaillé avec lui sur le tramway, on l'a fait participer, et puis on s'est lié d'amitié, d'affection avec lui. On a même fait à l'époque une médaille d'honneur pour lui, une médaille d'honneur, un jeton de collection qu'on a distribué dans tout le secteur. Et j'étais très passionné par l'aventure de ce petit Maxime, je vais citer son prénom, à quel point... À un moment, je me suis dit, il faut l'aider dans sa vie professionnelle. Il faut l'aider parce que c'était une véritable mission de l'aider pour moi. Et je me suis battu, comme vous ne pouvez même pas l'imaginer, pour arriver à le faire recruter, dans le respect des règles en vigueur, bien sûr, à la mairie de secteur. Et à la mairie de secteur, bon, bien évidemment qu'il ne pouvait pas tout faire, mais on lui a trouvé un peu un travail sur mesure et... il a trouvé une indépendance que ses parents n'auraient jamais, jamais imaginée. Et ça, j'en ai été très fier parce que ses parents que je continue à voir aujourd'hui, les hasards de la vie font qu'aujourd'hui, c'est mes voisins dans mon quartier. Et c'est vrai qu'ils m'ont toujours dit, tu as sauvé Maxime. Parce que Maxime a trouvé cette indépendance grâce au boulot. Une indépendance qui n'est pas que financière, hein, qui est une indépendance vraiment personnelle. Ça lui a ouvert un univers qu'ils n'auraient jamais espéré. C'est-à-dire cet enfant qui était quasiment tout le temps à la maison, ben, il s'est rendu compte qu'il pouvait sortir, il s'est rendu compte qu'il avait des passions. Il est passionné aujourd'hui du cinéma et il va régulièrement à la Sauta tout seul. Je ne sais pas si vous imaginez, il va à la Sauta tout seul. Avant, il n'aurait même pas quitté sa rue. Et ça, ça a été, ou c'est quand même encore pour moi aujourd'hui, je pense, la plus belle des choses
une
que j'ai pu faire.
Aussi,
une vraie fierté. Parce que voilà, c'est je me dis là vraiment, j'ai pu changer la vie de quelqu'un, d'une famille. Et cette, voilà, cette affection que j'avais, que j'ai toujours bien sûr pour Maxime, eh ben, voilà, elle a abouti à quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, voilà, il a trouvé une vraie indépendance. Et un jour, bien sûr, c'est la vie qui est comme ça. Quand ses parents, le plus tard possible, partiront, ben, ils partiront. Voilà, en sachant que lui, il a sa vie maintenant.
Plus soulagé.
Ah, voilà. Beaucoup plus soulagé. Voilà.
Mais pour être transparente avec vous, on m'a dit que vous aidez beaucoup, beaucoup de monde, justement. Beaucoup. C'est incroyable. Comment vous continuez à être prêt? Quand vous continuez à être présent comme ça sur le terrain, vous devez avoir une énergie incroyable. Comment faites-vous, justement, pour trouver cette énergie chaque jour?
Parce que j'ai toujours aimé la politique, souvent très décriée. J'ai toujours adoré le contact avec les gens. Et à travers la politique, eh ben, j'ai trouvé ce moyen d'être en contact avec les gens, de discuter, de faire avancer les choses. Et c'est pour ça que j'ai continué. Je vous disais tout à l'heure, bon, au-delà bien sûr du côté parti Édouard Philippe, etc., si je suis reparti dans une vie politique assez forte, c'est parce qu'à un moment, je me suis retrouvé avec finalement ce besoin qui me manquait. Ce besoin qui me manquait d'aller voir les gens, d'être en contact, d'essayer de penser à des choses plus positives par rapport à ce qui pouvait être proposé. Et c'est vrai que ça me nourrit finalement. Ça me nourrit parfois trop. Il m'est arrivé, mon épouse me le disait, moi, je suis admiratif des gens qui arrivent à avoir une vraie coupure le soir quand ils rentrent à la maison. Mmh. Et moi, j'y arrivais pas. Et je m'amenais parfois un peu trop de soucis à la maison. Peut-être que ça m'a coûté mon cœur, mais voilà, je m'amenais beaucoup de soucis. Et à la maison, voilà, je me gardais à l'esprit parfois des dossiers personnels, des demandes, des voilà, j'aime pas. C'est pas que des mots, vous savez. Moi, j'aime pas voir les gens malheureux. Je me dis, les gens heureux, se sont fait leur bonheur. C'est pas que de la chance d'être heureux. Mais je me dis, c'est terrible de voir ce qui se passe autour de nous. C'est terrible de voir finalement de la misère et me dire que il y avait des fois, moi, j'étais impuissant. Moi, je pouvais recevoir des gens qui malheureusement étaient complètement sur le carreau.
Mais justement, quand vous écoutez les habitants, qu'est-ce qui vous frappe le plus?
Ben, soit il y a des habitants qui me parlent de ce qui va, de ce qui ne va pas, des dossiers, des rues, du stationnement, etc. etc. Puis il y a des gens qui me parlent de leur quotidien, c'est-à-dire de plus en plus aujourd'hui la difficulté d'y arriver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le travail, le logement, c'est devenu un danger.
C'est compliqué.
C'est très 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 compliqué. Et ce qui prouve que les gens ont toujours confiance malgré tout et croient toujours à la politique quand ils viennent vous demander de les aider. Alors après, il y a le grand débat sur le clientélisme. Bon, aujourd'hui, presque, on pourrait aller en prison parce qu'on aide quelqu'un. Mais enfin, à un moment, moi, je me dis, dites-moi, si vous restez dans votre bureau et que vous recevez que les gens qui gagnent 20 000 euros par mois et qui roulent en Porsche, vous n'aurez pas beaucoup de demandes de rendez-vous. Vous recevez automatiquement, les demandes que vous recevez, c'est les gens qui ont besoin d'une aide. Alors l'aide, elle peut être une aide par rapport à son voisin, par rapport à son commerçant, par rapport à un problème particulier, mais l'aide, elle peut être aussi très personnelle, de voir comment on peut aider les gens à s'en sortir, sans que ça soit illégal, dans le respect des règles en vigueur, mais on peut essayer d'aider les gens, voilà.
Mais alors, du coup, comment vous évaluez, vous, vos réussites, mais aussi vos difficultés?
Ben, la difficulté, c'est qu'à un moment, on ne peut pas aider tout le monde et que dans une ville comme Marseille, ben, on sait qu'il y a une difficulté au niveau du logement, par exemple du logement social. Je veux dire, aujourd'hui, moi, il y a 25 ans, ou même 30 ans, excusez-moi, quand j'ai commencé à être maire de secteur, bon, ceux qui vous demandaient un logement social, c'était des gens qui étaient vraiment sur le carreau, mais sur le carreau, gravement sur le carreau. Aujourd'hui, on se rend compte que un couple avec deux enfants travaillent tous les deux, ils ont tous les deux un salaire à peu près correct, ben, ils s'en sortent pas. Ils s'en sortent pas. Ce qui veut dire qu'à un moment, voilà, il faut avoir une politique de logement social. Et c'est pas un gros mot, le logement social. Et c'est pas quelque chose qui doit être réservé à la gauche. D'ailleurs, on le voit très bien, quand la nouvelle équipe est arrivée à la mairie, la première chose qu'ils ont fait pendant 2 ans, c'est d'arrêter les permis de construire. Pas que pour les beaux immeubles à 50 000 euros par mètre carré, en exagérant à peine. C'est qu'ils ont en même temps arrêté aussi la construction de logements sociaux. Et il faut, dans cette ville qui est tellement cosmopolite à tous les points de vue, financiers, d'origine, de tout ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il faut savoir, gouverner cette ville, et il faut savoir surtout à quel endroit vous mettez le curseur entre le logement privé, c'est un vrai débat à avoir là-dessus, mais le logement privé et le logement social, et il faut les deux. Et il faut les deux, parce qu'à un moment, vous devez attirer des populations, ben, qui ont les moyens. Parce que moi, je pars du principe que l'argent va aider celui qui n'en a pas. Et de notre côté, il faut construire du logement social pour aider ceux qui sont justement en difficulté sociale et financière.
Dans un instant, on va remonter le fil de votre histoire et revenir aux racines de votre parcours. Mais avant cela, je vous propose une courte pause musicale. Êtes-vous d'accord?
Bien sûr.
Allez, c'est parti, à de suite. Gilles, en 3 mots, ça donnerait quoi?
Super Trump que vous venez de nous mettre, ça me rappelle les années 80. Non, 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 plus sérieusement. Bruno Gilles, c'est dur en 3 mots, mon Dieu. Moi, je suis très nostalgique, donc la nostalgie est importante chez moi. Elle est importante. On va parler peut-être de mon passé. Vous voyez, quand tout à l'heure je vous disais Sade, Super Trump, donc c'est quand même un peu de nostalgie. Après, je dirais l'affect. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'affect. Je suis un affectif, donc nostalgique.
Donc là, voilà, donc ça fait deux.
Ça fait deux. Et après, je sais pas, il y a plusieurs. Je suis passionné aussi. Je suis passionné de politique, je suis passionné de Tintin, je suis passionné de. Voilà, je suis très passionné dans le sens entier, trop entier. trop entier, ça deviendrait un défaut.
Comme un défaut, ah ouais.
Ouais, comme un défaut.
Ça vous a joué des tours.
Ça m'a joué des tours, hein, en politique, en amitié, en plein de choses, je crois. Mais après, on ne se refait pas. Après, voilà. On ne se refait pas. Et d'un côté, je me dis, sur beaucoup de sujets, c'est bien d'avoir été entier parce que je suis allé au bout. Voilà, il y a des domaines aussi où le fait d'avoir été entier, d'avoir été passionné, ça m'a apporté beaucoup. Et puis, quelquefois, ça m'a apporté une déception. Je n'ai même pas l'adjectif qui irait avec déception, tellement que cette déception était...
Ça fait mal, hein?
Oui, ça fait très mal. Mais ça m'a permis de connaître aussi cette douleur.
Bien sûr.
Cette douleur que je pensais ne pas exister.
Dites-moi, vous avez tous les Tintins?
J'ai toutes les bandes dessinées de Tintin. Ouais, j'en ai d'ailleurs tellement que je suis passé après aux objets dérivés. Et donc, j'ai commencé à collectionner toutes les figurines, les gadgets, les goodies, tout ce qui peut exister de Tintin. Et mon bureau à la mairie était devenu quasiment un musée Tintin. Et à quel point beaucoup de gens... qui étaient rentrés dans mon bureau, me ramenaient lorsqu'ils allaient à l'étranger, en particulier en Afrique, ils me ramenaient des statues, des objets de Tintin qui étaient faits à la main. Et j'ai des pièces extraordinaires, j'ai des souvenirs de pièces extraordinaires, de gens qui m'ont dit dans un petit village au fin fond de tel pays, il y avait des gens qui taillaient là avec un petit couteau, avec un tronc de d'arbre, et puis ils grattaient dedans la pirogue de Tintin, le Tintin assis dedans avec la rame. Donc voilà, j'ai de quoi ouvrir peut-être un musée de Tintin à Marseille.
Ouais. Ah, excellent.
Ouais, j'adore.
Quel genre d'enfant étiez-vous?
J'étais très turbulent, je le reconnais, mais j'étais très turbulent dans une époque où ça paraît moyenâgeux, parce que moi je suis né en 1960, je ne vais pas le cacher. Donc si vous voulez, une époque où on n'avait rien par rapport à ce que sont les enfants aujourd'hui. Donc la télé, elle était en noir et blanc, il y avait deux chaînes, peut-être même pas trois. Et donc on s'amusait finalement avec rien. Donc moi, c'est pour ça que je vous parlais aussi de nostalgie tout à l'heure, parce que je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était bien de monter dans les arbres, de se faire des cabanes avec des cartons. Moi, mes parents avaient un bar tabac au Chute la Vie, et on recevait à l'époque les paquets de cigarettes dans des cartons, vous ne pouvez même pas imaginer, des cartons immenses. Donc ces cartons, on les gardait, et puis avec mes petits voisins, dans le jeu de boules, on faisait des cabanes. Mais avec ces cartons étaient tellement grands qu'on arrivait à faire des cabanes.
Avec un rien.
Avec un rien. Avec voilà. Un rien. Et je dis pas ça pour mettre l'alarme à l'œil. C'est-à-dire, moi, entre guillemets, on manquait de rien. Mais se dire qu'on pouvait jouer des jours et des jours avec des cabanes en carton. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une hallucination si on raconte ça aux enfants ou même aux grands. Mais c'était super. C'était super.
Fermez les yeux un instant, s'il vous plaît. Si vous pouviez donner un conseil à l'enfant que vous étiez, lequel serait-ce? Mais vous trichez là.
Oui, je n'ai pas fermé les yeux. J'ai rien regretté de... Je peux les ouvrir maintenant?
Oui.
Non, j'ai rien regretté, franchement, de mon enfance. Donc, j'aurais pas
un petit conseil, non?
Non, j'aurais pas un petit conseil. Non. J'ai eu beaucoup plus tard que l'enfance, j'ai eu un grave accident de ski nautique. Et dans le cadre de mon job, j'étais dans la visite médicale et j'allais voir aussi les psys. Et j'ai eu au stade Vélodrome, parce que ce médecin était passionné de l'OM, donc on allait quelquefois à l'OM ensemble. Et j'ai eu, et vous inquiétez pas, je vais raccrocher à l'enfance. Ne croyez pas que je vous amène immédiatement à l'adolescence ou non, non. Et j'ai eu de grandes discussions avec lui suite à cet accident de ski nautique. J'ai eu de grandes discussions avec lui sur le destin. Et il m'a fait accepter le fait que le destin existait. Et qu'à un moment, alors ça paraît... Vous allez dire, il est un peu spécial, Bruno Gilles, mais il a réussi à me faire croire au fait qu'on a une vie qui est quand même assez tracée. On a une vie qui est tracée de la naissance à la mort avec parfois des passages obligatoires. Et lui me disait, tu sais, dans ta vie, tu as des passages obligatoires, tu crois ou tu ne crois pas. Et puis, c'est entre chaque passage obligatoire où, en fait, là, tu as la possibilité d'influer sur ta vie. Et je dis, sur cette période de ma jeunesse, j'aurais pas de conseils, j'aurais pas de choses à remettre en question, à quel point je pense que j'ai eu la chance, franchement, d'avoir, dans ces années-là, qui étaient encore ce qu'on appelait à l'époque les 30 glorieuses, j'ai eu la chance d'avoir une enfance franchement extraordinaire avec des parents aimants. Avec...
Alors, enfance dans le quartier, donc oui. Dans un quartier qui vous accompagne depuis toujours. Donc, et le 4e arrondissement, ouais. Voilà. Mais justement, quels sont les souvenirs qui remontent en premier, à part justement les cartons du bar tabac de vos parents pour jouer? Quel est le premier souvenir qui peut revenir comme ça?
Alors, ça va... Là aussi, quand on le remet aujourd'hui, on se dit, mon Dieu, c'est impensable. Il y avait, sur le chemin de l'école, on passait devant une usine de Coca-Cola. Et cette usine de Coca-Cola... Elle n'était pas fermée, il y avait des baies vitrées, mais qui étaient vraiment au bord de la rue. Vous voyez, donc on passait devant. Et derrière ces baies vitrées, il y avait la chaîne avec les bouteilles de Coca-Cola qui tournaient. Les bouteilles de Coca-Cola, à l'époque, elles n'étaient qu'en verre.
Absolument.
Et donc, on voyait les bouteilles de Coca-Cola, mais il y en avait des centaines, pour ne pas dire des milliers, qui tournaient. Et ces bouteilles, elles passaient vides, et puis on les voyait repasser remplies, et puis on les voyait ensuite repasser encapsulées. Et donc, la machine, bien sûr, elle prenait la bouteille en verre, elle la remplissait, elle la fermait. Alors, là aussi, vous ne pouvez pas être à ma place pour se rappeler ce souvenir. Mais on y restait. Mais je me souviens de ma mère, d'autres enfants avec leurs parents à côté qui tiraient les enfants parce qu'on aurait pu rester des heures devant ça. Parce que, voilà, c'est, pour nous, ça nous paraissait quasiment irréaliste de voir tout ça tourner. Le mécanisme de remplissage était extraordinaire. Et ça, c'est un souvenir qui m'a jamais quitté. Ça m'a jamais quitté. Voilà, d'avoir ce souvenir de cette usine en pleine ville, hein, en plein quartier. C'était extraordinaire. Et ça, c'est le tout premier souvenir. Et c'est un souvenir qui m'a jamais, jamais, jamais quitté, cette usine.
C'est vrai.
Ouais.
Et dans le bar tabac, justement, dans ce fameux bar tabac, qu'est-ce que ce lieu représentait pour vous, enfant?
Alors, c'était, pour moi, ça m'apparaissait un lieu immense. Parce que c'était très très grand, ce bar tabac. Il y avait encore mon grand-père.
C'était à votre grand-père à la base.
C'est mon grand-père, oui. C'est mon grand-père qui en fait arrivait de Corse. Et dans les années 30, il a fait construire ce grand bâtiment. Il y avait un bar tabac et à côté, il y avait une très très grande salle qui a servi beaucoup après la guerre parce que c'était la mode des bals. Et à l'époque, il n'y avait pas de boîte de nuit. Donc, les gens venaient danser. Et les gens dansaient cette libération après-guerre. Là aussi, il faut se remettre un peu dans le contexte. Et les gens étaient tellement heureux. Les gens dansaient. Et pendant des années, cette salle de bal a fonctionné la semaine comme le week-end. Et puis après, petit à petit, ça s'est perdu. Donc, en fait, il y a des commerces qui ont pris la place de cette salle de bar. Et le bâtiment entier appartenait à mon grand-père. Et le souvenir du bar tabac, c'était la grandeur à l'intérieur. Et puis à l'intérieur, il y avait des choses qui m'étaient interdites, en particulier les flippers. Alors ça aussi, ça venait des États-Unis.
Oui.
Les flippers, parce que je n'avais pas le droit d'aller dans le bar au départ, parce que c'était enfumé, parce qu'à l'époque, on fumait, bien évidemment. Donc on fumait, il y avait des adultes, il y avait beaucoup de monde. Donc c'est vrai que j'ai ce souvenir aussi, au moins je ne pouvais jouer que dans la grande cour derrière, qui était en fait un jeu de boules. Mais je n'avais pas le droit de rentrer à l'intérieur. Et je regardais ces flippers. Il y avait le billard à l'époque, dans les salles des bars et des bars tabac, il y avait beaucoup de billard encore. Donc il y avait le billard et il y avait deux, si mes souvenirs sont bons, deux flippers. Puis après, le billard a été remplacé par les baby-foot. Voilà, mais c'était un lieu interdit. Donc comme c'est un lieu interdit, c'était un lieu où je ne pouvais aller que le soir. Mais c'était rare, puisque c'était que pendant les vacances, où je pouvais aller le soir quand le rideau était fermé et que mon grand-père, mes parents, mon oncle, ma tante faisaient le ménage. Donc là, quand ils faisaient le ménage, j'avais le droit et j'avais à peine la tête qui arrivait au flipper. Donc le fait d'ailleurs de toucher les boutons,
avec
ça suffisait.
Avec les yeux, à mon avis,
voilà.
Qui pétillent,
mais oui,
plein d'étoiles,
oui,
mais bien sûr.
Ça, c'est pareil. Quand on se remet dans l'histoire, on se dit, mais bien, flipper à l'époque, c'était... Voilà, c'est années 60, on est encore dans les années très, très post-libération. Donc voilà, c'est des trucs qui venaient des États-Unis. Donc je ne vais pas faire le truc, le chewing-gum, le coca et le flipper, mais presque, voilà, il faut se remettre dans cet esprit-là. On n'est pas du tout aujourd'hui dans le cadre des relations qu'on peut avoir avec les États-Unis et leur président. Pas du tout. C'était autre chose, voilà. Et les Américains, c'était... Moi, j'ai été élevé quand même au fait que les Américains, ils avaient libéré la France. Donc les Américains, on les vénérait. Il faut voir ça. Hein. C'était... voilà. Quand ils ont marché sur la Lune, je veux dire, tout le monde de ma génération et des générations d'après se souviennent exactement où ils étaient le jour où on nous a dit, voilà, on a marché sur la Lune. Hein. C'est aujourd'hui, bon, avec les réseaux, avec 10 000 chaînes à la télé, là aussi, on ne peut pas faire le parallèle. Mais ces images en noir et blanc des Américains qui marchent sur la Lune, vous ne pouvez pas imaginer. C'est quelque chose, alors c'est très vieux jeu quand je raconte ça, mais c'est des souvenirs... Une autre génération n'aura pas les souvenirs qu'on a pu avoir, nous.
Quelle était l'ambiance quelle était l'ambiance familiale dans laquelle vous avez grandi ?
Moi, l'ambiance familiale, c'est surtout ma maman, parce que on est dans une période où, justement, avec ce commerce qui était très important, très dur, c'était... à l'époque, c'était surtout les hommes qui travaillaient. Et ma mère, elle s'occupait de la famille. Et ma mère, moi, j'ai le souvenir que c'était elle qui s'occupait de faire manger tout le monde à le midi. Et il y avait le roulement, c'est-à-dire qu'il y avait mon grand-père qui venait manger en premier, puis mon père qui venait manger avec mon oncle, moi qui mangeais au milieu avant qu'elle me ramène à l'époque. Donc c'était une autre considération de la condition de la femme. Hein. Après, ma mère était très heureuse, hein, là aussi. Bon, voilà, c'était comme ça. Donc moi, j'étais quand même dans un cocon malgré tout familial. Voilà, j'avais d'un côté beaucoup de liberté, parce qu'à l'époque, ben, y avait beaucoup de liberté, mais on m'a amené à l'école. Hein. Moi, jusqu'en sixième, on m'a amené à l'école. Hein. Voilà, en me tenant presque par la main. Donc j'en avais honte. Quand je suis arrivé au lycée, j'en avais honte. Voilà, l'école, ça allait. Mais après, quand je suis arrivé au lycée en sixième et que ma mère, elle me sortait la voiture, elle me donnait la main pour aller jusqu'au grill du lycée, bon, c'était un peu compliqué. Je pense même qu'elle m'a amené jusqu'en cinquième. Donc c'était... Et je n'ai eu l'autonomie que peut-être qu'à partir de la cinquième, en sachant que moi, j'avais l'arrêt de bus devant chez moi et que le 81 me laissait devant le lycée Saint-Charles. C'est-à-dire, j'avais 3 mètres à marcher. À l'aller, 3 mètres à marcher quand j'étais au lycée. Voilà. Mais j'ai des bons souvenirs. Et puis mes parents travaillant beaucoup, l'été, je passais quasiment les 2 mois de vacances chez mes grands-parents dans les Landes, donc dans le département des Landes. Et là, on était en pleine forêt. Et là, c'est encore beaucoup de souvenirs où là, c'est pire que les cartons et les cabanes, puisque là, c'est la vie à la campagne. C'est la vraie vie à la campagne avec le vélo. Moi, mes grands-parents n'avaient même pas de voiture, je ne sais pas si vous imaginez, et on cuisinait sur la cuisinière au bois. Donc c'est, là aussi, c'est énormément de souvenirs de mes grands-parents et de ma grand-mère, dont j'ai eu la chance, elle a vécu jusqu'à 102 ans.
Wow.
Et donc mes enfants l'ont connue, et ça a été aussi du pur bonheur, parce que ça a permis à mes enfants de connaître quelqu'un qui ne connaissait rien de ce qu'est devenu le monde. Voilà, pas de téléphone, pas d'éclairage, pas de ceci, pas de cela. Une grand-mère qui a connu la guerre de 14-18, mais qui avait des souvenirs de la guerre de 14-18, parce que elle est née, je crois, en 19, ma grand-mère, donc en 18, pardon. Donc, elle avait des souvenirs quand même, toute petite, de mon arrière-grand-père qui avait fait la guerre de 14-18. Donc là, on revient, voilà. Mais c'est une vie complètement différente, une vie très dure, hein, une vie de, alors là, on peut dire vraiment de labeur, de contrainte, bon... Moi, ma grand-mère était ce qu'on appellerait aujourd'hui un agent de service dans la maison de retraite religieuse du village. Bon, on lavait le linge tous les jours dans le lavoir. Hein.
D'accord.
Voilà, tous les matins. Donc, il n'y avait pas de gants. Hein. Il n'y avait pas de sèche-linge, il n'y avait pas de machine. Hein. C'est-à-dire qu'elle partait avec les brouettes, avec le linge d'une maison de retraite. Donc, vous imaginez tout ce qu'il y avait. Et puis, quand elle quittait la maison de retraite avec ses collègues, tout avait été lavé, tout avait été repassé. Les cornettes des sœurs, elles tenaient droite et elles faisaient un mètre sur la tête, donc à la mi-dent. Donc voilà, c'est une vie de labeur, de dureté, mais une vie aussi extraordinaire, parce que là aussi, c'est autre chose. C'est des souvenirs d'occupation aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, y compris dans un petit village. Donc c'est une vraie histoire de France que mes enfants ont pu connaître grâce à leur grand-mère. Donc c'est ça aussi, c'est des bons souvenirs pour moi, de dire quelle chance pour mes enfants d'avoir connu leur grand-mère.
Quelle valeur essentielle vous a été transmise par vos parents ?
Les valeurs de... Les valeurs de l'époque, donc c'est très simple, c'est tout ce qui se perd un peu aujourd'hui, c'est même pas les valeurs de travail, de choses comme ça, c'est les valeurs de respect, les valeurs de politesse. Moi, ça m'a été toujours transmis, bien évidemment, par mes parents. Et puis, au-delà de la famille, à l'époque, c'était transmis d'office par tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai connu l'école où quand quelqu'un tapait à la porte de la classe et rentrait, on se mettait tous debout, on se levait. Bon, je pense que c'est du respect, tout simplement.
C'était normal.
Ben, c'était normal, c'est-à-dire que personne n'imaginait. Et puis, voilà, il y avait ce qui était transmis par les parents, mais on était... Il n'y avait même pas... Je ne sais même pas si on peut parler de transmission, tellement que ça paraissait naturel qu'on ait ce respect, qu'on ait une bonne éducation, qu'on respecte les règles, les lois. Ça paraissait tellement logique. Et puis, de toute façon, la famille, la deuxième couche, elle vous était donnée à l'école. Je veux dire, elle vous était donnée à l'école. Moi, j'ai connu des choses. Aujourd'hui, il y aurait 50 procès. Moi, j'ai connu des véritables punitions. C'est-à-dire qu'à l'école, quand vous étiez puni. Il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait pas d'association, c'était rien. Hein, j'en suis pas mort. Mais quand je vous dis des punitions, c'était pas... Moi, j'ai connu des punitions où on nous punissait, on nous mettait dans l'angle au fond de l'école avec les dictionnaires dans les mains. Je ne sais pas si
au
vous
coin.
Imaginez. Au coin. Mais c'était quasiment de la torture. C'était pas longtemps, il ne faut pas exagérer. Mais bon, voilà, le maître, il vous donnait deux dictionnaires, il vous envoyait au fond de la classe, au coin, comme vous dites, et puis on devait garder deux dictionnaires dans les mains. Et au bout de cinq minutes, quand vous êtes petit, les deux dictionnaires, je peux vous dire, parce que c'était les dictionnaires à l'ancienne, c'était pas les dictionnaires de poche. Bon, voilà, ben, ça vous... Moi, j'en suis pas mort, mais franchement, après, vous n'aviez pas trop envie d'aller au coin, comme on disait. Au coin. Voilà. Non, mais tout ça, voilà, c'était une autre époque et tout ça, on l'a vu se dilater. Et aujourd'hui, ce qu'on peut regretter, c'est que, à part la famille, bien peu de gens, bien peu de structures peuvent justement faire transmettre tout ça. Parce que aujourd'hui, c'est très difficile pour des structures, par exemple, éducatives. Et je les condamne pas du tout quand je dis ça. Je comprends la difficulté. Avant, comme je vous disais, il y avait la famille et puis il y avait tout ce qu'il y avait autour. Et aujourd'hui, si la famille fait défaut, c'est dur pour la société au sens très large de récupérer ce que la famille ne peut pas inculquer. Alors que, je dirais, à mon époque, je pense que si la famille ratait un peu, il y avait quand même un système éducatif, un système d'encadrement qui faisait qu'on était rattrapé. Moi, j'ai connu le patronage aussi. Attention, le patronage, il était ouvert à tout le monde. Hein. À tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai souvenir de copains à moi d'école qui n'étaient pas des petits cathos et qui venaient au patronage. Patronage, c'était le moment où tout le monde, tout le quartier se retrouvait. Et en face de chez moi, justement, il y avait le patronage avec monsieur le curé, comme on l'appelait. Et c'était pas mon père, c'était monsieur le curé, vous imaginez. C'était monsieur le curé. On ne disait pas mon père, on disait monsieur le curé. Il y avait encore plus de respect. Eh bien, moi, je me souviens d'amis à l'école qui étaient des petits musulmans ou qui étaient des petits issus de la communauté juive. Mais tout le monde était au patronage. On jouait tous au foot ensemble. Et là, pareil, ça marchait droit. Et personne ne se sera amusé à ne pas respecter une consigne donnée par monsieur le curé. Bon, là, on est dans la séquence nostalgique de regretter tout ça.
J'adore. Je bois vos paroles. Et en plus, j'imagine en même temps les images et tout. Dites-nous, vous avez été scolarisé au lycée Saint-Charles, donc à Marseille. Vous avez croisé pas mal de monde. Elie Kaku, par exemple.
Oui, j'ai croisé Elie Kaku, qui n'était pas à cette époque-là l'artiste qu'il est devenu. Mais j'ai bien sûr des souvenirs de lui, même si on avait, je crois, une classe d'écart. Il était déjà dans l'humour. Hein. Il était déjà dans l'humour, dans la brancherie, je cherche le terme pour ne pas être impoli. Mais voilà, il était toujours rigolard, toujours déconneur. Bon, voilà. Et j'ai retrouvé quelques... Alors, je l'ai suivi, mais on s'est perdu de vue, bien évidemment. Et j'ai retrouvé, quand j'étais maire de secteur... j'ai retrouvé sa famille, dont une partie de sa famille habite toujours au Chartreux. Et ça a été, vous voyez, aussi un bon moment quand vous me demandiez tout à l'heure les choses dont on peut être fier, etc. Ça a été un bon moment parce qu'avec sa famille, on s'est mis d'accord de trouver un lieu pour rappeler son souvenir. Voilà, parce que Bah, Lukaku, il a marqué aussi quand même une génération. À l'époque, c'était un grand humoriste. Je veux dire, il a fait une belle carrière et il aurait fait sans doute une très très belle carrière s'il n'était pas parti avant. Et on a trouvé au boulevard du jardin zoologique, on a trouvé un endroit où on a mis sa plaque pour se souvenir que voilà qu'il était là, qu'il a habité là, qu'il a toujours sa famille.
Un hommage,
voilà. Et ça fait partie aussi des belles choses d'un maire de secteur.
Alors, après le lycée Saint-Charles, vous intégrez la faculté de médecine à l'université de Marseille, ex-Marseille, hein, c'est bien ça?
Oui, faculté de médecine de la Timone, oui.
Alors, pouvez-vous nous expliquer un tout petit peu ce parcours et ce qui vous a attiré vers la médecine?
Alors, j'avais une partie de ma famille des Landes qui était aussi à Bordeaux. Et à Bordeaux, j'avais mon oncle médecin et ma tante qui était pharmacienne. Et à l'époque, j'étais énormément attiré, je ne pourrais même pas vous expliquer pourquoi, j'étais attiré pour être médecin dans l'armée, donc faire santé navale. Et santé navale, c'était à Bordeaux. Et ma mère, qui était quand même très mère poule, j'ai eu un veto absolu sur le fait de partir faire santé navale à Marseille. Et ben, un peu par désespoir, ça serait un peu trop fort, mais donc j'ai dit je vais faire médecine. Et bah écoutez, j'ai pas tellement réussi médecine, c'était pas ma voie. J'ai même été plutôt un mauvais élève parce que là aussi je sortais d'un établissement Saint-Charles qui était quasiment un établissement privé à l'époque, tellement qu'on était tenu et serré. Et puis d'un coup, lorsque vous êtes en médecine, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de carnet de correspondance, il n'y a plus rien. Vous y allez, vous n'y allez pas. Et là, je me suis retrouvé très libre. Là, il n'y avait plus ma mère qui m'amenait en voiture devant l'école. Hein. Donc, je me suis retrouvé là tout seul. Bon, la cafette, les filles. Donc, j'ai dit, mais attends, mais c'est quoi la vie? C'est ça? Donc, si vous voulez, la fac de médecine, j'ai raté, je reconnais, j'ai raté trois fois. Et j'ai cherché longtemps ma voie puisque je fais médecine.
Vous dirigez vers la prothésie dentaire, ouais. Puis l'optique.
Oui, je suis resté un peu là-dedans. Alors, prothèse dentaire, j'ai réussi, j'ai eu tous mes diplômes et oui. Puis après je n'y ai pas travaillé parce que c'est le moment où il y a eu la coupure entre les prothésistes et les dentaires. Avant, les prothésistes dentaires étaient obligatoirement dans un cabinet de dentiste. Et puis moi, l'année où je réussis, c'est au moment où il y a la scission officielle qui est acceptée par l'État, ce qui fait que moi j'ai mon prothésiste dentaire qui part, mon dentiste qui veut me garder, les deux. Bon, et puis j'ai dit, finalement, j'arrête. Et je fais la fac d'optique où je deviens là aussi opticien. Donc, je réussis. Donc, finalement, j'ai raté médecine, mais je ne me suis pas trop mal débrouillé après. Et je réussis la fac d'optique. J'ai mon diplôme universitaire d'optique. J'ai mon CAP de monteur en lunetterie. J'ai mon BTS. Là, je réussis tout, franchement. Et j'ai un beau projet de m'installer avec des copains de fac. Et j'ai mon accident de ski nautique qui arrive l'été, ce qui fait qu'en septembre, je ne peux pas m'installer. Voilà.
Et surtout aussi, il y a une autre aventure qui commence à se dessiner, celle de l'engagement politique. Alors, vous commencez quand même très jeune, hein, seulement 19 ans.
Pas 19 ans, même 18 ans.
18 ans.
18 ans.
D'accord. Et donc là, vous adhérez
au RPR,
le parti fondé par Jacques Chirac à l'époque, que vous admirez beaucoup. Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à vous engager si tôt et à choisir ce parti? Et qu'est-ce qui vous fascinait chez Jacques Chirac?
Jacques Chirac, ce qui me passionnait, c'est ces images à la télé d'un homme très grand, d'un homme avec des grands bras et que je voyais dans les meetings. Et ces images-là à la télé, ça m'a passionné. J'ai été passionné par l'homme, j'ai été passionné par ses discours, j'ai été passionné par les meetings, par la foule, vraiment, c'était assez exceptionnel. Mais je ne sais pas si j'aurais franchi le pas, mais après, vous voyez le destin. Je vous parlais tout à l'heure du destin. On était en mars 79, si je me souviens bien, puisque c'est la période où j'adhère au RPR. Et mars 79, il y a des élections cantonales à l'époque. Et on est en première année de médecine et avec des copains, on est en train de réviser. Et puis on en a marre de réviser, donc on descend. À l'époque, il y avait beaucoup de kiosques à sandwich sur le cours Saint-Louis. Et on descend sur le cours Saint-Louis s'acheter des sandwichs chauds. Et on croise une équipe d'afficheurs du RPR. Mais vraiment, vous voyez le hasard. C'est-à-dire qu'on se retrouve comme si on s'était retrouvé accoudé à un apéro, à un bar. On se retrouve là à acheter un sandwich. On sympathise avec eux. Et puis, on part afficher. Et on passe la nuit à aller afficher avec eux. Voilà. Et là, franchement, c'est le déclic total, c'est-à-dire cet affichage de nuit. Bon, à l'époque, l'affichage, on ne peut pas là aussi réaliser l'affichage politique la nuit, c'était tendu, c'était presque en cachette.
Il y avait l'adrénaline alors.
Ah, mais il y avait énormément d'adrénaline. Et puis on a dit, mais on revient demain. Et puis on est revenu. Et puis voilà comment je me suis retrouvé adhérent finalement au RPR et puis engagé voilà, dans ce qui va être ma vie, je dirais. Ma vie.
Je vais vous laisser justement raconter votre parcours, votre vie.
Après les élections s'enchaînent les unes après les autres. Au tout début,
quelles étaient vos premières missions concrètes sur le terrain?
Moi, j'étais très, très militante de base, c'est-à-dire on affichait, on tractait. Les jeunes, vous savez, n'étaient pas considérés en politique comme ils sont considérés aujourd'hui. On était vraiment, excusez-moi le terme, je le mets à peine entre guillemets, de la main-d'œuvre de terrain. Il a fallu attendre quelques années pour qu'il y ait des postes de responsabilité pour les jeunes. J'ai été d'ailleurs, à l'époque, responsable des jeunes RPR à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône avec Renaud Muselier. Et puis après, petit à petit, on prend un peu du galon et puis on arrive effectivement petit à petit à être responsable pour ma part d'une circonscription. Puis après, responsable départemental et puis on arrive aux élections municipale de 1995. Alors j'étais d'abord candidat.
Alors qu'est-ce qui vous a le plus surpris en entrant dans la vie politique?
Mais à l'époque aussi, on rentre dans une famille. Attention, c'est alors en plus le RPR, c'est la famille gaulliste, c'est très très claniste au sens pur du terme. Mais c'est une famille. Hein, le RPR, c'est issu là aussi, c'est issu du gaullisme. C'est là où je vous le disais tout à l'heure. Moi, je découvre des personnalités comme Philippe Séguin. Il y a énormément de réunions, il y a énormément de formations. Ça n'a plus rien à voir avec les partis politiques d'aujourd'hui. La formation est obligatoire. Je ne sais pas si vous imaginez. Mmh. C'est comme une fac. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez un poste de cadre, vous êtes obligé de faire l'école des cadres du parti. Il y a deux partis qui font ça. C'est le Parti communiste et le RPR. Pour qu'on soit bien, bien formé, pour ne pas dire formaté. C'est-à-dire qu'à l'époque, même si on est jeune, on est capable de presque de répondre à toutes les questions sur le parti, sur Chirac, sur la ligne, sur le gaullisme, etc. Et c'est vrai où là, j'ai la chance de côtoyer à ce moment-là des grandes personnalités. Jacques Chirac, Philippe Séguin.
Oui, mais du coup, à l'époque, vous avez déjà une vision claire de ce que vous vouliez défendre à vos débuts.
Au début, pas trop, parce que je vous dis, c'est vraiment le
petit à petit.
Petit à petit. Et c'est petit à petit que je rentre dans ce que j'appelais tout à l'heure le gaullisme social de Philippe Séguin. Philippe Séguin était quelqu'un qui se déplaçait beaucoup dans les fédérations. Et à l'époque, là aussi, c'est l'image qu'il faut arriver à percevoir. À l'époque, on fumait partout, beaucoup. Et Philippe Séguin fumait des gitanes sans filtre. C'est-à-dire une cigarette où il y avait une fumée. Et je me souviens de réunions enfumées ou dans des énormes pièces ou dans des salles, tout le monde fumait. C'est-à-dire qu'on voyait à peine l'orateur quelquefois. Et parfois, on était dans des espaces plus restreints. Et je me souviens à la Fédération RPR des Bouches-du-Rhône, quand on avait la chance d'avoir des rencontres avec Philippe Séguin, qui pouvait, pendant quasiment des heures, parler, vous expliquer sa vision. Sa vision de la France, sa vision de d'avenir. Et c'est vrai que là, c'était autre chose. On était dans des sujets aujourd'hui qui sont plus d'actualité, comme la participation. La participation, c'est la participation financière, c'est-à-dire les entreprises qui devaient permettre à leurs employés, à leurs ouvriers de détenir une petite partie par la participation de l'entreprise. C'est quelque chose qui s'est complètement, qui a été complètement dégradé, je dirais, par ce qu'on a pu appeler les stock options pour les plus riches. Mais à l'époque, c'était l'ouvrier de base. C'était le plus petit employé, le plus petit ouvrier qui devait détenir une partie du capital. Et ça a été une vision gaulliste qui était extraordinaire. Et donc, on nous a appris un petit peu tout ça et petit à petit, on a avancé jusqu'aux fameuses élections de 1995.
Comment apprend-on à gérer la pression, les critiques et l'exposition publique?
On apprend sur le tas, finalement. Il faut savoir se contenir, il faut savoir quelquefois résister aux injustices, voire parfois même aux insultes. La vie politique a toujours été quelque chose de dur, dans le relationnel avec les autres. Avant, c'était dur sur le terrain uniquement, parce qu'il y avait beaucoup de respect de l'élu. Aujourd'hui, c'est dur sur le terrain, mais en même temps, je trouve qu'il y a moins de respect de l'élu. Et nos concitoyens, qui sont souvent si promptes à venir demander quelque chose, sont aussi si promptes à ne pas respecter, l'élu. Donc la pression, on va apprendre à la gérer jour après jour, campagne après campagne. C'est parfois très dur, mais ça va avec la vie politique. Hein. Quelqu'un qui ne sait pas résister à la pression ne doit pas faire de la politique, ça c'est sûr.
Allez, continuez, je vous laisse parler.
Non, mais si on reste sur ce sujet-là, voilà, et après petit à petit arrivent les élections municipales de 95, où je suis pour la première fois maire de secteur. Puis après, en 2001, je suis réélu. En 2002, j'intègre l'Assemblée nationale puisque je suis suppléant de Renaud Muselier quand il devient ministre.
C'était un grand ami, hein ?
Oui, c'était un grand ami. On a longtemps cheminé effectivement ensemble. Et ensuite, je suis en 2008, je suis élu au Sénat avec Jean-Claude Gaudin. Et je suis réélu au Sénat en 2014, ce qui fait que j'ai eu une vie politique quand même assez riche, assez rempli, et je suis là aussi, sans fausse modestie, fier quand même, parce qu'il y a bien peu de gens qui passent à la fois par l'Assemblée nationale et par le Sénat, ce qui m'a permis de découvrir les deux chambres qui sont complètement différentes l'une de l'autre. Et ce que j'ai toujours aimé, mais je crois que je l'ai déjà dit, c'est le mandat local. Et d'ailleurs, moi, j'étais complètement opposé à quelque chose de très démagogique qui a été l'arrêt du cumul des mandats. Le cumul des mandats, c'était simplement pour faire plaisir, c'était une mesure très démagogique, mais sur le terrain, c'est une véritable erreur. Et on l'a vu d'ailleurs avec l'Assemblée nationale sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, où en fait, faire élire des gens qui sont hors sol, c'est une erreur phénoménal. En fait, un bon député, un bon sénateur, c'est celui qui a un mandat local. Et moi, je pense que pendant des années, pendant presque 20 ans, la complémentarité que j'ai eue en tant que maire de secteur, député et sénateur, ça a été une très très bonne chose. Et aujourd'hui, la plupart des parlementaires sont coupés de la réalité.
Vous êtes à l'origine d'une proposition de loi, non ?
Oui.
Et oui, on peut en parler ?
Oui, c'était une proposition de loi que j'ai faite après le drame, malheureusement, de la rue d'Aubagne. Où après la rue d'Aubagne, on s'est rendu compte que chacun travaillait dans son coin, que toutes les collectivités travaillaient dans son coin, que l'État, que la préfecture travaillait dans son coin et que personne ne se parlait, personne ne se réunissait. Je ne dis pas ça pour... Je pèse mes mots. Je ne dis pas ça pour trouver des excuses au drame de la rue d'Aubagne. La justice est encore en cours, les responsabilités, un jour ou l'autre, sortiront. Mais... moi, je me suis rendu compte de ça et j'ai beaucoup travaillé sur ça. J'ai fait une proposition de loi et cette proposition de loi, ce qui est rarissime, a été votée par la totalité du Sénat, tout banc politique confondu. C'est-à-dire que de l'extrême droite à l'extrême gauche, les 352 sénateurs ont voté ma proposition de loi. Ce que je regrette, c'est que pour qu'elle devienne véritablement une loi, il fallait qu'elle soit votée conforme à l'Assemblée nationale. Et ça n'a pas été le cas. Et je trouve que ça a été une erreur parce qu'après, il y a des petites parties de ma proposition de loi qui ont été reprises de temps en temps par amendement. Mais je ne dis pas que ma proposition de loi était parfaite, mais en tout cas, quand elle est votée par tout le monde, c'est qu'elle fait quand même l'unanimité. Et ça permettait à l'époque, on en a beaucoup parlé ensuite, d'instaurer le permis de louer. Ça permettait aussi d'avoir des sanctions beaucoup plus fortes sur les marchands de sommeil. Ça permettait aussi d'avoir véritablement une cellule ou une structure qui réunissait toutes les collectivités, parce que le logement n'est pas une compétence uniquement d'une seule collectivité. Le logement, aujourd'hui, c'est la mairie, c'est le département, c'est la métropole et c'est la région. Donc, imaginez, déjà une structure qui réunissait ces quatre collectivités sous l'autorité, par exemple, de la préfecture, avec des liens directs avec le ministère du logement. Là, ça avait de la gueule, parce que là, il n'y avait plus la possibilité de dire « c'est pas moi, c'est l'autre hein. ». Là, on ne se renvoyait pas la balle. Et ça permettait d'avoir vraiment, sur la ville de Marseille, mais sur la France entière, mais moi, je raisonnais un peu égoïstement aussi à travers mon œil de Marseillais, de dire ben, « ce qui s'est passé dans le centre-ville, si on s'en occupe, on peut faire avancer les choses ». Et aujourd'hui, je le dis avec regret, il y a peu de choses qui ont été, il y a peu de choses qui ont avancé. La possibilité pour la ville, pour la mairie, de se substituer par exemple à du privé pour faire des travaux d'urgence, on voit qu'aujourd'hui, ben, c'est compliqué financièrement et techniquement. Si toutes les collectivités, travaillent ensemble, si l'État travaille avec ses collectivités et qu'on ait un vrai plan financier de plusieurs centaines de millions d'euros, en exagérant à peine, ce qui permettrait d'avoir un plan qui toucherait la quasi-totalité, par exemple, des logements insalubres du centre-ville, puisqu'ils sont beaucoup concentrés sur cet endroit-là. Et de dire, voilà, on prend tous les logements, on demande aux propriétaires de faire les travaux avec un laps de temps assez réduit, c'est-à-dire qu'on ne va pas les faire réfléchir pendant des mois et des mois, et qu'on dise, au bout de 3 mois, c'est une des collectivités, par exemple la mairie, qui fait les travaux, qui se substitue à ce propriétaire ou à ses propriétaires, et ensuite on envoie la facture. Il y en a certains, parce qu'ils gagnent tous un pognon fou, on le sait, hein. Donc il n'y a pas de souci, ils peuvent faire les travaux ou ils peuvent rembourser, mais il faut qu'il y ait la volonté politique. Je n'ai pas senti cette volonté politique, en tout cas, moi là aussi, je m'honore, je le dis franchement, j'assume le terme, moi je m'honore de m'être vraiment penché sur ce sujet, qui ne concernait pas mon secteur, mais je me suis dit, il faut s'en emparer parce que je suis sénateur et que, à l'époque, avec le maire de Marseille, avec les responsables des autres collectivités, on a dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et je regrette malheureusement que voilà qu'il n'y ait que des petits morceaux qui aient été repris.
Alors, vous êtes sénateur, mais pouvez-vous nous expliquer en quoi ce mandat diffère de celui de député ou de maire ?
Alors, comme je disais tout à l'heure, les mandats nationaux sont complémentaires pour moi des mandats locaux. Mais la grosse différence qu'il y a entre le député et le sénateur, puisque j'ai eu le bonheur de faire les deux, un député réagit plus instantanément. Il est plus pris par l'actualité. Et on voit les réactions sur des propositions parfois un peu tirées par les cheveux. On voit aussi l'ambiance à l'Assemblée nationale. On voit le moment des questions au gouvernement. C'est, je dirais pas que c'est folklorique, parce que ça serait méchant pour mes collègues députés. Mais le Sénat prend plus le temps. Et moi, j'ai pu voir la différence parce que j'étais dans les mêmes commissions à l'Assemblée nationale et au Sénat. J'étais dans la commission des affaires sociales. Alors, ça touche demain le logement, ça touche la santé, ça touche beaucoup de choses. Et je voyais bien que parfois, on était un peu contraint, à marche forcée, de suivre le groupe, d'être un peu assez homogène, d'être très politisé. Au Sénat, on a le gros avantage d'être très libre, de pouvoir prendre son temps et de travailler beaucoup plus sereinement. En commission des affaires sociales au Sénat, là aussi l'étiquette politique, elle ne compte pas. Et vous vous retrouvez avec des gens de bord opposé, et l'intérêt général vraiment va primer. Et moi, il m'est arrivé de me retrouver avec des élus communistes ou des élus du Front National, et on votait la même chose. Et où je l'ai vu sur un sujet très particulier qui m'a fait beaucoup réfléchir personnellement. Moi, j'ai été parlementaire sur les lois sur la fin de vie. Ce qu'on a appelé Leonetti 1 à l'Assemblée nationale et Leonetti 2, puisque la loi a été portée par Jean Leonetti, le député-maire à l'époque d'Antibes, Jean Lépin. Leonetti 1 à l'Assemblée nationale, en gros, on nous a dit, il fait voter, circuler, rien à voir. Bon. Au Sénat, on a énormément auditionné. Des grands médecins, des grands professeurs, des associations. On a auditionné tous les cultes. C'est, en termes de culture générale, de réflexion, de connaissances personnelles, c'est extraordinaire aussi de discuter sur ce sujet avec les différentes religions. Ça apprend beaucoup. Franchement, ça vous fait prendre un recul extraordinaire. Et à la fin, eh bien, chacun était libre de voter ce qu'il avait envie de voter. C'est très très fort ça par rapport à l'Assemblée nationale. Et moi je me souviens très bien parce que pour Leonetti 2 au Sénat, j'avais ma maman qui était en fin de vie. Et donc ça m'a permis là aussi d'avoir un cerveau, excusez-moi l'expression, un peu coupé en deux. C'est-à-dire un cerveau Bruno Gilles fils et un cerveau Bruno Gilles sénateur. Et les deux étaient pas toujours en phase. Pas toujours en face, parce que moi j'avais la situation là qui était devant moi, avec ma maman qui souffrait, ma maman qui c'était dur. Et ma maman qui avait envie de partir, qui me demandait de partir. Et d'un côté, j'avais le sénateur qui disait, mais la loi, là, je vais la voter comment? En fonction de Bruno Gilles qui voit sa mère souffrir, ou en fonction de Bruno Gilles qui va faire la loi pour tout le monde, pas que pour ceux qui auront, comme moi, un parent qui est en fin de vie. Et c'est là où vous avez aussi une vraie réflexion personnelle. Et c'est là où le Sénat permet cette réflexion personnelle, de dire à un moment, voilà. Alors, bien sûr qu'on vote la loi pour tout le monde, donc il faut prendre un peu cette hauteur. Mais d'un autre côté, l'expérience personnelle, la vie personnelle, elle doit rentrer en jeu. Sinon, vous n'êtes plus humain. Sinon, vous êtes un robot sénateur. Voilà. Et ça, c'est une grosse différence avec l'Assemblée nationale. Alors, je ne veux pas que vous gardiez simplement le fait que les sénateurs sont de très bons élus et les députés n'en seraient pas. Mais voilà, on nous donne beaucoup plus de possibilités de se faire son idée parce qu'on auditionne beaucoup plus. Et comme je vous disais tout à l'heure, auditionner les grands médecins, auditionner des associations qui sont pour ou contre, qui sont fortement pour ou contre, mais très, très, très fortement, et recevoir tous les cultes, c'est impressionnant d'avoir certains cathos qui vous disent « mais on ne doit jamais donner la mort », d'autres qui vous disent « mais à un moment, il faut écouter », d'autres qui vous disent « mais nous, on n'a pas d'avis, finalement ». Et bien, tout ça, voilà. Tout ça, vous voyez, sur cet exemple particulier qui est très personnel aussi, hein, eh bien, ça vous prouve à quel point, voilà, c'est très enrichissant, soyons honnêtes, même si en ce moment-là, je vivais des problèmes personnels très durs, mais c'est très enrichissant de se dire, voilà, on va avancer jusqu'où. Et moi, j'étais, pour clôturer ce sujet, j'étais assez défavorable au fait qu'on fasse encore une troisième loi. Je pense qu'on avait trouvé le juste milieu, on avait trouvé quelque chose d'équitable entre, allez, si on veut résumer, c'est pas le cas, mais entre les pour et les contre.
Avec toutes ces années d'expérience, comment avez-vous appris à vous adapter à différents contextes politiques?
Ça dépend. D'abord, ça dépend du contexte, mais la vie, on dit souvent que les quand parfois on peut dire on est un peu caméléon dans la vie politique. Moi je suis pas d'accord avec ça. Vous savez, moi j'ai une ligne. Moi je suis un homme de droite et je l'assume. Mais vous l'avez compris, une droite républicaine, une droite sociale, une droite humaniste, c'est-à-dire que j'ai ces valeurs de droite, mais avec une certaine limite et avec des composantes que j'intègre là-dedans. Un homme politique de gauche, très connu à Marseille, dont je ne citerai pas le nom, me disait « tu es le maire de secteur de droite le plus à gauche ». Alors ça me faisait rigoler, parce que... Mais voilà, donc moi, voilà, puisqu'à un moment, il faut quelquefois se classifier, je dis « moi, je suis un homme de droite qui s'assume avec quelques critères que je dois intégrer ». Ça permet parfois de s'adapter à une certaine évolution de la vie politique ou de la vie quotidienne, tout simplement. Tout n'est pas politique, mais avec aussi certaines limites. Mais comment on s'adapte? Eh bien, on s'adapte en fonction aussi de sa personnalité, en fonction de plein d'autres choses, bien sûr.
Mais parmi tous ces mandats, quels dossiers ont été les plus complexes à gérer?
Des dossiers surtout nationaux, parce que comme je le disais tout à l'heure, pour les lois de fin de vie, il y a une vraie réflexion personnelle, donc c'est quand même difficile d'y intégrer le paramètre personnel. Après, localement, beaucoup de sujets sont très complexes. Vous savez, quand à un moment, on décide de mettre du stationnement payant dans les rues de Marseille, alors qu'il y en avait très très peu, c'est sûr que c'est compliqué. Hein, quand vous avez des manifestations devant la mairie, là aussi, il faut beaucoup de pédagogie, il faut amender un peu comme on amenderait un texte, à quel point, bon, j'avais un peu peut-être un peu d'habitude pour négocier, puisqu'à l'époque, Jean-Claude Gaudin avait enlevé le dossier des mains de l'adjoint à la circulation d'époque et m'avait dit « c'est toi qui vas t'en occuper ». Et il fallait l'adapter. Donc à l'époque, moi j'ai reçu beaucoup les commerçants, les riverains, les associations. On a négocié le gratuit entre midi et deux, on a négocié les fameuses cartes de résidence sur un quartier puis sur deux. Bon voilà, c'est des dossiers qui sont sensibles à gérer, mais ces dossiers, avec un peu de tact, avec un peu de discussion, on arrive à bien les gérer. Le tramway, imaginez que depuis 1977 et les travaux du métro, qui étaient en plus des travaux plutôt souterrains, quand on attaque les travaux du tramway, c'est les plus gros travaux en 2007, c'est les plus gros travaux depuis 30 ans. dont les Marseillais sont dans leur petite tranquillité, là aussi c'est pas méchant, quotidienne. Moi je vois sur Boulard-Chave, ils ont leur petit 68 qui fait les allers-retours, là tout le monde est content, c'est comme si c'était une petite calèche là qui fait l'aller-retour. À Foch, les gens ils n'ont rien demandé, et puis d'un coup vous leur dites, ben, vous savez que pendant 18 mois je vais vous péter vos rues, de pied d'immeuble à pied d'immeuble. Là ça a été difficile. Et là, ça a été aussi beaucoup d'expérience, parce que vous êtes là en train de réfléchir, avant le 1er mai, où les fleuristes font par exemple quasiment 30% de leur chiffre d'affaires, bah, il faut leur libérer le devant. Il faut leur mettre techniquement des choses pour qu'ils puissent sortir tout leur muguet, tout leur... Bon, ça, il faut anticiper. Quand vous avez les examens scolaires, moi je me souviens avec... À l'époque, c'était encore le lycée Michelet. Ben, il faut arrêter les travaux avant le bac. Parce que quand le proviseur vient me voir et qu'il me dit, Monsieur Gilles, mais qu'est-ce que c'est l'échéancier là, au moment du bac? Alors, je le vois arriver là. C'est qu'en gros, ben, tous les enfants qui auront le bac, c'est grâce à eux. Et tous les enfants qui rateront le bac, c'est à cause de Bruno Gilles. Bon, donc, il faut aménager. Et ça, je vous le multiplie X fois. Bon, là, vous êtes quasiment plus maire de secteur. Vous êtes chef de chantier bis. Et je me souviendrai toujours de ce chiffre. Sur le chantier du tramway, c'est 80 ou 81 entreprises qui vont se succéder. 81 entreprises. Et que, ben voilà, il faut gérer tout ça. Et moi, je ne suis pas quand même le patron de la mission tramway de l'époque, qui était d'ailleurs un Alsacien, M. Kunzer, je me rappellerai toujours de lui, parce qu'il avait la rigidité du Strasbourgeois, de l'Alsacien, mais oubliant qu'à Marseille, Marseille, c'est pas l'Alsace. Hein. Donc la rigueur, il ne l'a pas trouvée et il a fallu expliquer comment ici, quand il y a des règles, il faut se débrouiller parfois à les détourner parce qu'il faut prendre en compte tout le monde. Donc ça a été des dossiers passionnants, hein, honnêtement. Moi, le jour où on a inauguré le tramway, là aussi, j'étais très très fier parce que je me dis, mon Dieu, mais tout ce que j'ai pris dans la tête pendant un an et demi, voir enfin le tramway arriver, franchement, c'était une vraie reconnaissance. Et moi, j'ai eu la chance, là aussi, parce que je me suis beaucoup battu, avoir deux lignes de tramway, la ligne de tramway sur Chaves et la ligne de tramway sur Foch. Il n'y a pas un autre secteur municipal qui a eu deux lignes de tramway. Donc franchement, je me suis bien débrouillé, honnêtement. Mais ça a été, là aussi, ça a été beaucoup de stress, beaucoup de nuits blanches, beaucoup de choses que je me ramenais à la maison.
Dans votre parcours, quelle a été l'épreuve la plus marquante? Est-ce que c'est celle-ci ou peut-être autre chose?
Non, l'épreuve marquante, elle est plus... Les épreuves marquantes, quand vous perdez des élections, c'est toujours des épreuves marquantes.
Bien sûr.
Voilà, 2020 restera pour moi une cicatrice qui ne se refermera jamais parce que je n'avais jamais imaginé, peut-être un peu par ego, je pensais jamais perdre dans les 4e et 5e arrondissements. Jamais, parce que je m'étais tellement investi. Je me disais, au-delà de l'étiquette politique, et en fait, ce qui m'a fait perdre, ce n'est pas du tout la division, d'ailleurs, c'est le Covid. Hein. Il faut se remettre dans cette période-là.
Voilà, dans ce contexte.
Voilà, ouais. Il y a le Covid, on passe de à peu près 62% de participation, 64% au premier tour à 32%, ce qui fait que moi, beaucoup de personnes, tous nos aînés depuis les 65 ans ne vont pas voter. Donc moi, honnêtement, je perds l'élection. Et ça, c'est un drame. Mais au-delà des défaites politiques qui permettent de mieux se relever... Bon, l'épreuve sans doute personnelle qui est liée peut-être un peu à la politique et à mon ancienne vie, la plus dure, c'est quand j'ai mon... Voilà, quand je suis finalement au bout de quasiment ma vie, hein, c'est quand je dois être greffé, que j'ai une greffe du cœur. Je pense que c'est ça.
Allez, on en parle, vous inquiétez pas, on va en parler. Mais comment restons solides quand la pression est forte?
Comment rester solide quand la pression est forte? Ça va s'acquérir au fil des années. C'est évident qu'au début, c'est compliqué. Puis ça, on apprend. On apprend à résister au stress, à la pression. C'est quelque chose qu'on va acquérir au fil des années. C'est ça, je ne pense pas que ça soit tout à fait inné, même si parfois on peut dire qu'il y a des gens qui supportent plus les choses que d'autres, mais c'est de la vraie expérience, c'est de la vraie habitude, c'est savoir comment, petit à petit, on va avoir le cuir tanné, comme on dit. Voilà. Mais ça, c'est l'expérience et c'est l'habitude.
Alors, il y a quelques secondes, oui, vous nous avez dit que la vie a aussi mis face à des épreuves personnelles qui vous ont marqué, hein, qui a marqué votre parcours. Donc, on repart en 86 avec votre grave accident.
Ouais, on repart en 86 et j'ai un accident ski nautique. Et vous voyez, c'est à partir de... C'est quand j'ai parlé de cette chose-là que mon collègue psychiatre m'a dit, tu vois, il faut croire au destin et au passage obligatoire. Parce que à l'époque, je suis directeur de l'école de voile et de planche à voile de Cassis. C'est un jour où il fait un temps, alors je vais très vite, hein, c'est un jour où il fait vraiment pas beau, donc on a rentré tous les bateaux de l'école voile, on a renvoyé les élèves à la maison, on a enchaîné tous nos zodiacs de sécurité, puis je me vois arriver des copains de la fac d'optique, justement, de l'époque, et qui me disent « Ah, dommage, tu as fermé, on veut faire du ski, etc. » Puis finalement, on part quand même faire du ski nautique, bien évidemment, tous, quand on est au large, ils voient les vagues, donc personne ne veut se mettre à l'eau. Il n'y a que moi qui fais du ski nautique et puis je fais une erreur, ce qui fait que je rentre dans un bateau et j'ai un enfoncement de la cage thoracique assez grave qui me déclenche un traumatisme, qui me déclenche en fait un infarctus d'origine traumatique, ce qui est très rare. Cet infarctus d'origine traumatique, en fait, je vais me le traîner toute ma vie jusqu'au moment où, malgré l'implantation d'un défibrillateur, malgré un traitement très lourd qui m'a permis de mener une vie, franchement, tout à fait normale, hein. Et j'arrive finalement en novembre 2017, j'arrive, si vous voulez, au bout du bout du bout du bout de ce qui doit être ma vie. Et finalement, je suis sauvé par le professeur Collard in extremis. Je suis positionné au niveau national sur ce qu'on appelle les listes d'extrême urgence. Et au bout de 48 heures, on trouve un cœur qui est compatible au niveau de l'âge, au niveau du groupe sanguin, au niveau du volume. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Et j'ai cette greffe qui va me redonner finalement la vie et qui va me redonner une vraie deuxième vie. Donc c'est quelque chose bien sûr qui marque parce que c'est 6 mois de dure rééducation. Donc c'est 6 mois de réflexion aussi parce qu'on se retrouve, on est au-delà du premier mois qui est très difficile, hein, où on est bien sûr un légume, mais après on a de longs mois de rééducation dans une maison spécialisée à hier. Et là, les journées, elles sont longues, hein, parce que vous faites de la rééducation, du sport, mais la journée, elle s'arrête à 16 heures. Hein. Donc après 16 heures jusqu'à 22 heures, 23 heures, bon, voilà, là, il y a un peu la télé, il y a un peu les journaux, il y a un peu les coups de téléphone, les livres sur Tintin, tout ce que vous voulez, mais les journées, elles sont longues. Et vous pensez beaucoup.
Justement, voilà. on pense, mais comment votre regard sur la vie a-t-il changé ?
Il a changé parce que bien évidemment, quand on est au bout du bout de sa vie, parce qu'en fait, moi, je pars du principe que j'étais arrivé au bout du bout, puisque avant la greffe, franchement, je n'arrivais à peine à respirer à la fin. Hein. J'ai eu mes activités à la mairie jusqu'au dernier moment, mais franchement, j'étais au bout du bout. Après, d'abord, on va relativiser beaucoup de choses. Ça, c'est sûr, ça m'a permis de prendre énormément de recul. Et surtout, vous voyez la vie, bien sûr, différemment. Parce que vous êtes obligé de vous dire, ma vie, elle a failli s'arrêter. Ma vie, elle était à un micron de s'arrêter là. Et finalement, de tout perdre. Et donc là, vous allez relativiser. Et c'est d'ailleurs pendant cette période que, alors certains, en plaisantant ou en étant un peu moqueur, m'ont dit, quand j'ai été candidat à la mairie centrale en 2020, certains ont dit il a été touché par la grâce, il a vu la Vierge. Bon, j'ai ni été touché par la grâce ni vu la Vierge, mais je pense que ça permet beaucoup de relativiser et puis de vous dire finalement, écoutez, j'ai été sauvé, c'est peut-être pour faire autre chose. Et voilà, mais je pense que la chose la plus importante, c'est qu'on va relativiser beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je reste toujours ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire je reste toujours très, très affectif, pour ne pas dire très affectueux, très nostalgique, mais j'essaie, parfois j'y arrive, j'y serais jamais arrivé avant, parfois j'y arrive à prendre malgré tout un certain recul nécessaire pour dire mais vu où tu es passé, il faut arriver à lâcher prise ou il faut arriver à prendre un peu ce recul. Donc c'est vrai que la greffe m'a donné quand même la possibilité de relativiser parfois, pas tout le temps. Et pour avoir discuté avec d'autres greffés, où on a quelquefois échangé, pour certains, c'est une vraie nouvelle vie, mais pas qu'une nouvelle vie physique, c'est une nouvelle vie aussi
psychologique,
voilà. Moi, nouvelle vie physique, alors ça c'est sûr, psychologique, parfois je retombe un peu dans les voilà, dans mes erreurs d'avant, mais c'est comme ça. De toute façon, je ne vais pas me refaire. On m'a changé le cœur, on ne m'a pas changé le cerveau.
Dans votre livre « À tout cœur pour Marseille », oui, vous revenez sur ces moments.
Mmh. Mmh.
Qu'avez-vous voulu vraiment transmettre ?
Ce livre, je l'ai fait avec... C'est l'idée d'une journaliste que j'appelle toujours affectueusement CFK. C'est Christine François Kirsch. C'est une ancienne journaliste du quotidien local. Un jour, elle me dit... parce qu'on devient, au fil des années, on devient amis. On ne partage pas du tout, d'ailleurs, les mêmes opinions politiques. C'est une fille de gauche qui s'assume, que j'ai essayé un peu de droitiser. Et elle n'a jamais réussi à trop me gauchiser. Mais en tout cas, on a beaucoup lié. On est devenu franchement très, très amis. Et à force de mieux se connaître, et surtout, elle, à force de mieux me connaître, elle me dit, mais il y a des choses extraordinaires, il faut que tu en parles, est-ce que tu veux faire un livre? Au début, j'ai dit, moi, je ne veux pas faire un livre, franchement, j'ai pas envie. Et puis, elle me dit, alors, au lieu de faire, elle me dit, je ne vais quand même pas écrire tes mémoires, tu as à peine 60 ans. Elle me dit, par contre, j'aimerais bien qu'on fasse un entretien. Alors, entretien, je lui dis, mais entretien, ça me rappelle le livre Entretien avec Bernadette Chirac, tu vois. Donc, elle me dit, non, mais on fait quelque chose de sympa. Et on a fait ce livre, enfin, elle a écrit ce livre avec une série de questions qui se sont déroulées, mais voilà, comme se déroule l'émission radio aujourd'hui. Franchement, on a fait ça en une fois, vous n'allez pas le croire, on a fait ça en une fois. C'est-à-dire qu'on a passé une après-midi et une soirée d'affilée.
Et le livre a été écrit comme
ça. Et après, elle l'a écrit. Elle avait tout, puisqu'en fait, je répondais à ses questions.
Bien sûr.
Mais elle a mis peut-être quelques jours à réécrire des passages, des choses comme ça. Mais l'interview à ses questions, on l'a commencé, je me rappelle très bien, un jour, je crois, vers 15h. Et on l'a fini tard. On a dû passer 5, 6 heures, 7 heures ensemble. Mais on l'a fait d'un trait. Alors qu'au départ, elle pensait qu'on allait le faire en plusieurs fois. Mais en fait, on était bien, on était, voilà. Donc, boum, c'est sorti comme ça. Et puis, voilà, j'ai senti à la fin que c'était les questions de fin. Donc, j'ai dit, mais on va finir. Elle me dit, mais oui, on va finir. On a fini les entretiens. Et c'est vrai que je me suis laissé emporter par cette idée. Je le relis quelquefois. Vous le croirez ou non, je le relis quelquefois. Parce que voilà, c'était... c'est une période avant 2020. Donc là aussi, c'est une période où j'ai encore beaucoup d'espoir. Et surtout, où j'ai encore beaucoup d'espoir sur les relations politiques. Et en tout cas, ce livre et 2020 m'auront permis d'arriver à un constat qu'il est très très difficile d'avoir une amitié sincère dans la vie politique. Ça, c'est très dur. Ça sera peut-être la seule chose très dure que je vous dirai cet après-midi. C'est dur. C'est dur.
Il n'y en a pas.
Il y en a, mais c'est compliqué. Voilà. Et ça a été un de mes torts.
Mais c'est compliqué comment ?
Ben, c'est compliqué dans le sens où... Ben, ça découle un peu de ce que je vous disais. Vous savez, tout à l'heure, moi, l'affect, la nostalgie, la confiance, c'est presque des choses aussi que... Je ne sais même pas mes parents qui m'ont inculqué ça. C'est que... Bon, j'étais comme ça. Vous savez, voilà, moi, j'avais une tendance à faire confiance. Moi, j'ai toujours marché à l'affect, dans le boulot, dans l'école de voile qui a été mon premier job. J'ai été moniteur, directeur, enfin, sous-directeur, directeur. J'ai gravi un peu tous les échelons, mais dans la confiance, dans l'affect, dans le relationnel. Et dans la politique, en fait, j'ai transféré dans la vie politique ma vie personnelle et comment je pourrais dire le Bruno Gilles civil, ben je l'ai mis dans le Bruno Gilles politique. Et en fait, j'ai mis longtemps pour me rendre compte qu'en fait, ben non, il y a deux vies. Il y a la vie perso et puis il y a la vie politique. Et moi, j'ai tout transféré. Et mes amis politiques sont devenus mes amis. Ma vie politique est devenue ma vie. Et en fait, si vous voulez, je vivais à 98% dans la politique. Et voilà, on sortait avec les gens de la politique, on allait en vacances avec les gens de la vie politique. Et je me suis rendu compte beaucoup trop tard, c'est même pas des critiques envers certains. C'est qu'à un moment, il faut savoir couper. La vie politique, elle est dure. La vie politique, elle est mortelle. La vie politique, il y a très peu d'affect. D'ailleurs, dans la vie politique, vous entendez dans tous les interviews, mon ami, non, non, mais oui, ton ami, mais les amis, on n'en a pas beaucoup. Moi, quand je perds en 2020, je peux vous dire que des amis, j'ai eu des amis, mais Mes rares amis qui me sont restés, c'était les amis de la vie civile. Dans la vie politique, le téléphone, il ne sonne plus. Il ne sonne plus, voilà. Et tout le monde le dit. Alors, il ne va plus sonner aussi quand on est à la retraite, mais il ne sonne plus pour d'autres raisons. Donc, voilà. Ça a été aussi quelque chose qui m'a fait réfléchir. Et quand, pour boucler la boucle sur le bouquin de Christine François Kirsch, c'est quand je le relis, en plus, elle en a fait un deuxième aussi. Mais elle perso sur le constat de la défaite de 2020. Mais quand je relis le sien, je me dis, ben aujourd'hui, je ne répondrai pas de la même manière à ces questions.
Ah.
Voilà.
Allez, avec toutes ces épreuves, ces moments de vie et votre parcours riche, vous ont construit. Bruno, certaines personnes parlent déjà de votre possible candidature pour les 4e et 5e arrondissements. Pouvez-vous nous en dire peut-être un peu plus sur ce sujet ?
Oui, ben je vais vous répondre franchement, bien sûr. Je serai candidat aux élections municipales dans les 4e et 5e arrondissements. Je serai la tête de liste de l'équipe de Martine Vassal dans ce secteur. Et je repars parce que vous l'avez compris, la politique, ça reste quand même ma passion. Et puis je repars aussi parce que je suis pas satisfait de ce qui s'est fait ou justement pas fait pendant 6 ans dans ces 2 arrondissements qui sont quand même ma vie personnelle, ma vie politique, ma vie familiale. Donc voilà, on l'a dit, je suis né au Chute-la-Vie, j'y habite avec ma famille, j'ai 2 enfants qui font des études mais qui reviennent régulièrement au Chute-la-Vie. Donc je suis très attaché. Et quand je vois l'état de ces 2 arrondissements, ben, je me dis, il faut, voilà, je dois repartir. Donc en fait, aujourd'hui, c'est officiel, vous êtes sans doute une des premières à le savoir, mais voilà, les têtes de liste n'ont pas été encore officiellement présentées dans les médias, donc moi je le dis, voilà, je serai la tête de liste dans les 4e et 5e arrondissements.
Bruno, je tiens à vous remercier infiniment d'avoir pris le temps de partager ce moment avec nous. Merci pour votre sincérité, votre disponibilité et pour nous avoir ouvert une fenêtre sur votre parcours, vos souvenirs, vos convictions et vos épreuves. Merci. Un dernier mot ?
Oh ben, le dernier mot, c'est simplement pour vous remercier parce que j'ai passé moi aussi un bon moment. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Vous ne pouvez pas le voir derrière mes lunettes, mais j'ai presque eu la larme à l'œil quand on a parlé de Coca-Cola.
C'est vrai, j'ai vu.
Vous l'avez vu ? Ouais, Coca-Cola, ça m'a beaucoup marqué. C'est la première chose qui est revenue. Ça m'a rappelé ma jeunesse, voilà, toutes ces années-là. Et c'était un bon moment. Merci.
Merci à vous encore. C'était L'Œil de Sape sur Fréquence Mistral. Souvenez-vous, les amis, au final, peu importe les titres ou la notoriété, c'est le cœur de l'humain qui font toute la différence. Bonne soirée à tous.